Vous écoutez
RMC. RMC 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Bonjour à tous, vous écoutez Anaïs Matin. J'espère que vous allez bien en ce dimanche 13 septembre 2026. On va parler de votre pouvoir d'achat aujourd'hui. Selon un sondage ELA pour BFM TV, 67% des Français disent que leur pouvoir d'achat a baissé au cours des derniers mois. C'est 11% de plus qu'en janvier dernier. La part des Français qui ne bouclent pas les fins de mois sereinement dépasse désormais les 40%. Et se rapproche, c'est très intéressant, de son niveau de la crise des gilets jaunes. Moi, je voudrais évidemment vous en parler ce matin. Savoir si vous avez l'intention de descendre dans la rue le samedi 17 octobre, puisque c'est la date qui circule. Donc, est-ce que vous allez descendre dans la rue à cause des prix des carburants qui sont trop élevés? Je vous attends au 3216 et sur le WhatsApp d'RMC. Des Français qui ont du mal à se loger, même lorsqu'ils bossent, le marché de la location est saturé. Les prix de l'immo sont toujours élevés et les taux d'intérêt ne cessent de grimper. Ça aussi, on va en parler avec vous. Du parcours du combattant pour trouver une maison ou un appart. J'attends vos témoignages et on sera avec Brice Cardi, président du réseau L'Adresse, à 7h40. À 8h40, on sera avec un journaliste que vous connaissez forcément, qui vous a fait vibrer à la télé si vous êtes fan de ballon ovale. Mathieu Lartaud viendra nous parler de son documentaire qui sera diffusé la semaine prochaine en prime time sur France 2. Documentaire dans lequel il entend faire tomber le tabou du cancer. Rendez-vous à ne pas manquer. On va parler, je sais que ça t'intéresse, Martin, de l'équipe de France féminine de basket qui s'apprête à vivre un grand moment aujourd'hui après avoir battu l'Allemagne en demi. Les Bleus disputent la finale de la Coupe du Monde face aux États-Unis. Tu vas pas arrêter, c'est ça?
Non. J'ai calé le rendez-vous. J'espère que le petit sera déjà couché. Comme ça, je pourrai regarder ça tranquillement.
Ce sera évidemment à suivre en intégralité sur RMC. Et puis, vous qui vous réveillez, vous vous dites peut-être, mais attendez, elle ne nous parle pas de Céline. C'était comment? Bah, extra. Forcément, elle a ouvert son concert avec cette chanson-là.
On ne change pas. On
ne change pas des larmes dès le début du concert. Retour grandiose de Céline Dion hier sur scène après 6 ans d'absence. On y revient dans le journal de Lou Garnier dans un instant. Et si vous avez eu la chance d'y assister, bah là aussi on vous attend. D'abord la météo de Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous.
Est-ce que ce sera un beau dimanche aujourd'hui?
Oui, mais pas pour tout le monde. Sur l'extrême nord, on a une petite perturbation qui donne pas mal de nuages. Quelques pluies éparses et faibles. Alors ce matin, c'est entre la Manche et la frontière belge. On a aussi quelques bandes brouillard sur la façade atlantique, mais déjà beaucoup de soleil ailleurs. Et dans l'après-midi, cette perturbation, on va la retrouver entre la pointe du Cotentin et le Grand Est, avec un petit risque d'orage entre les Ardennes et l'Alsace. Alors c'est vraiment pas une grosse perturbation, hein. Les pluies restent faibles et éparses, et on peut avoir quelques ondées aussi sur l'Île-de-France, mais partout ailleurs c'est du beau soleil. Côté température, les minimales, on est souvent entre 12 et 18 degrés, même si c'est un peu frais par endroit sur le Nord-Est et les régions centrales, et les maximales 21 à 25 près de la Manche, 25 à 29 sur le reste de la moitié Nord, et 29 à 31 dans le sud.
Merci Peggy.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Vous écoutez RMC, il est 7h.
RMC 7-9, Anaïs Matin.
Bonjour Lou Garnier.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Émotion des fans de Céline Dion, grand retour sur scène hier. RMC était à la sortie du concert. Après le Touquet, direction Hénin-Beaumont pour Marine Le Pen qui fait sa rentrée politique. Et puis c'est l'événement sport du jour, l'équipe de France féminine de basket en finale de Coupe du Monde.
Je suis debout sur scène, dans cette ville que j'aime tant. Grâce à votre soutien.
6 ans après sa tournée annulée, Céline Dion a donc fait son grand retour hier soir.
Et oui, devant 30 000 spectateurs transis, 2h30 de spectacle avec ses plus grands titres, Pour que tu m'aimes encore, J'irai où tu iras. À la sortie, les fans ne cachent pas leur émotion, Justin Adel.
À la sortie du concert, le show continue dans la rue avec les fans.
C'était incroyable. Céline, elle est bien live. Elle était extraordinaire, formidable. C'est le plus beau concert de ma vie.
Elle a une prestance, elle prend toute la scène. Il n'y a pas de mots pour décrire cette femme.
Un concert avec de nombreux classiques en toute sobriété.
J'ai surtout vu un show timide au début.
Un retour en simplicité, mais très orienté vers son public. Elle a chanté ses classiques, c'était merveilleux.
Très beau, très touchant, très élégant. Il y avait une dimension très épique dans la mise en scène. C'était magnifique.
Les yeux encore rouges, Soulef ne s'en remet pas.
J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai vibré, je tremblais. Enfin, c'était incroyable.
Pour elle, l'aventure Céline ne s'arrête pas là.
Je vais me rendre à l'hôtel parce qu'il faut absolument que j'aie mon petit selfie avec Céline. Et je vais finir par la voir parce que je suis là mercredi, je suis là vendredi, samedi et je reviens de date au mois de mai.
De quoi profiter encore plus de l'artiste, même si certains fans ne sont pas inquiets. Céline Dion est véritablement de retour, affirme-t-il.
Un reportage de Justin Adel pour RMC.
Vous écoutez RMC, il est 7h02. L'enquête continue après le déraillement d'un TER en Normandie.
Le train qui reliait Rouen à Caen a déraillé près de la ville de Cléon en Seine-Maritime vendredi soir. Une jeune femme de 18 ans est toujours hospitalisée. Alors comment un tel accident a-t-il pu se produire? La boîte noire du train a été saisie, rapporte le procureur de Rouen. Toutes les pistes sont étudiées. Romain Cluzel, sur place, les usagers du TER sont sous le choc.
Une épaisse minerve soutient le cou de Laura, tout juste sortie de l'hôpital.
Les gens et les valises sont tombés sur nous.
Passagère de la première rame, celle qui s'est couchée 24 heures plus tard, elle est toujours en état de choc.
Je fais que pleurer et dès que je m'assoupis ne serait-ce qu'un peu, j'ai des flashbacks de ce qui s'est passé, je n'arrive pas à y croire. J'ai mon psychologue derrière moi, j'ai besoin, quoi. Je ne peux pas rester toute seule dans cette situation.
Fatima, elle, connaît très bien cette ligne.
Elle passe par Bernay, Lisieux aussi.
Mais elle s'arrête toujours à Caen pour voir son petit-fils.
Imaginez que je l'aurais pris soir là, parce que moi je le prends souvent le soir. Et franchement, ça m'a fait froid dans le dos. Wow. J'aurais pu être dedans. Vraiment.
Le train a déraillé à 300 mètres de chez Valérie.
Moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est les causes possibles du déraillement.
Un morceau d'un autre rail a été trouvé sur la voie ferrée.
On se dit que possiblement un acte malveillant, ça peut être possible partout. C'est vraiment une petite ligne de campagne. C'est ça aussi qui est très choquant.
Selon le procureur de Rouen, aucun élément à ce stade ne permet d'évoquer un acte de malveillance avec l'intention délibérée de faire dérailler le train.
Romain Cluzel pour RMC. On ne l'a pas beaucoup vu cet été. Marine Le Pen fait sa rentrée politique aujourd'hui. Elle était hier au Touquet. Elle sera à Hénin-Beaumont aujourd'hui, son fief électoral. Prise de parole en début d'après-midi. Après plusieurs polémiques, l'objectif est clair pour la candidate à la présidentielle. Afficher l'image d'un parti unifié, Sonia Gobry.
La photo est attendue. Jordan Bardella et Marine Le Pen côte à côte. Ça fait 2 mois que les 2 têtes du RN ne sont pas apparues ensemble publiquement et ils seront particulièrement scrutés alors que Jordan Bardella a eu du mal à cacher sa déception de ne finalement pas être le candidat du Rassemblement National à la présidentielle. Il affiche aussi ses divergences avec Marine Le Pen sur les retraites ou l'interdiction du voile dans la rue et le président du RN entend poursuivre un travail de fond et d'influence alors que le clan Le Pen a repris les postes clés. Mais cet après-midi, Jordan Bardella ne s'exprimera pas à la tribune. Quant à Marine Le Pen, elle ne devrait pas revenir sur les remous qui agitent son parti. Selon son entourage, elle fera un discours social et populaire avec des annonces sur la vie quotidienne des Français.
Des précisions de Sonia Gobry du service politique de RMC.
Et on y reviendra sur cette rentrée de Marine Le Pen tout à l'heure à 8h10 dans l'édito politique de Bruno Jeudy. Les restaurateurs font grise mine.
Et leur chiffre d'affaires baisse, moins 6,5% sur un an au deuxième trimestre. D'après leur syndicat, l'UMI, la quasi-totalité des départements sont concernés, mais avec de grosses disparités. Dans la Loire, les restaurateurs enregistrent une baisse de 8,2% de leur chiffre d'affaires. Reportage à Saint-Étienne avec notre correspondant Vincent Chevalier pour RMC.
Malgré le soleil et une température idéale, des terrasses désespérément vides, pas étonnant pour ces Stéphanois.
Aller au resto, c'est devenu occasionnel. Même avec le boulot, c'est de temps en temps, mais c'est vraiment rare. Quoi.
C'est un budget, les restaurants maintenant. En vrai, il faut le prendre en compte dans tout le reste.
D'autres, comme Benoît, continuent d'y aller régulièrement, mais ils ont revu certaines habitudes.
Les desserts ont énormément augmenté, donc peut-être avant je prenais un dessert, maintenant j'en prends plus.
Dans le département, les établissements ont enregistré une baisse de 8,2% de leur chiffre d'affaires au deuxième trimestre. Bilan amer pour Julien Jean-Roch, gérant de 3 brasseries dans le centre-ville.
Les chiffres et les caisses enregistreuses nous l'attestent. Une marge qui se réduit, des prix de plus en plus chers, des coûts énergétiques importants, c'est très compliqué à gérer.
Pour ces professionnels, il y a de quoi être inquiet pour la restauration traditionnelle.
On voit nos chiffres qui baissent, c'est compliqué. Il y a une inquiétude à avoir.
Fabrice Laurent, patron de l'Intuition et président de l'UMI dans la Loire.
Les restaurants traditionnels ou gastronomiques, ils sont moins en vue que des fast-food. Maintenant, aujourd'hui, les gens ils se restaurent comme ça beaucoup plus qu'avant.
Selon l'UMI, 25 restaurants ferment chaque jour en France.
Un reportage de Vincent Chevalier pour RMC. C'est une grande première. L'équipe de France féminine de basket est qualifiée pour la finale de Coupe du Monde après sa victoire face à l'Allemagne hier, 86 à 64. Les Bleus sont prêtes pour aller chercher l'or. C'est ce soir 20h contre contre les États-Unis. Ce n'est pas le moment de relâcher les efforts pour Marine Johannes, arrière des Bleus, invitée de Bartoli Time sur RMC hier.
Ça reste une des meilleures équipes au monde. Elles ont des joueuses talentueuses sur tous les postes. Toutes font partie de la meilleure ligue au monde. Certaines ont joué avec elles à l'année, donc on sait leurs forces. Ça va être un gros match. On a du vécu ensemble. Je pense qu'on a une connexion qui est peut-être plus intense que certaines équipes. On connaît aussi un peu comment ça se passe en Team USA. Donc on espère aussi se servir de cette force pour nous, d'être connectés, de rester ensemble, d'être soudés.
Est-ce que vous croyez en leur victoire? Vous nous dites au 32-16.
Bien sûr,
je savais qu'il allait dire ça. Il m'a regardé. Qu'est-ce qu'elle raconte? Évidemment. RMC, en tout cas, adapte ses programmes, c'est ça, Lou, toute la journée?
Exactement. Ouais. On vous fait vivre en direct la finale en intégralité dès 20h, on le disait tout à l'heure. En foot, Kylian Mbappé ne s'arrête plus de marquer. Le Real Madrid s'est imposé 4-1 hier soir face au Rayo Vallecano lors de la 5e journée de la Liga. Le Français a encore signé un doublé. Edgar Grollo.
Oui, Kylian Mbappé a marqué ses 5e et 6e buts en Liga cette saison, de quoi le placer co-meilleur buteur du championnat espagnol. L'attaquant avait raté un pénalty lors de la dernière journée, mais pas cette fois. Il a ouvert le score en prenant le gardien adverse à contre-pied dès la 14e minute de jeu. Après plusieurs occasions manquées, il a ensuite définitivement tué le match avec le dernier but de son équipe dans le temps additionnel de la seconde période. En campagne de communication pour le Ballon d'Or ces derniers jours, le Français marche dans les pas de Karim Benzema. Kylian Mbappé est le premier joueur du Real Madrid à marquer 6 buts lors des 5 premières journées de Liga depuis son compatriote il y a 5 ans. Une saison au bout de laquelle Karim Benzema avait remporté le Ballon d'Or. La forme de Kylian Mbappé tombe à pic pour le Real à une semaine du derby de Madrid sur la pelouse de l'Atlético dimanche prochain.
Et puis un mot de rugby pour terminer. Choc du top 14 ce soir à 21h05. Le Stade Toulousain, champion de France en titre, reçoit l'UBB, champion d'Europe. Un match à suivre sur RMC, évidemment.
Grosse journée de sport encore RMC.
Comme souvent le week-end.
Les dimanches comme ça, évidemment. Évidemment. Est-ce qu'on a des messages ou est-ce que la France dort à cause de cette
Il y a quand même pas mal de messages sur 06 12 424 424. On a Pierre-Yves, tiens, notamment, qui nous envoie des messages, qui nous envoie des photos de lui dans sa boulangerie. Pierre-Yves,
salut, qui était là
studio,
dimanche dernier.
La semaine dernière.
Ah ouais, l'année dernière.
J'ai eu un déclic. Et qui a ajouté une petite touche, tiens, sur sa caisse. Gâteau au chocolat d'Anaïs. On va raconter un petit peu quand même.
Alors, j'ai vu. Oui. J'ai vu le problème.
T'as vu le prix?
J'ai vu 0 euro. J'y arrive. C'est tout ce qui vaut mon gâteau au chocolat. Parce que la semaine dernière, j'ai fait un gâteau. J'ai osé faire un gâteau alors que Pierre-Yves Boulanger venait nous voir et il est venu avec plein de bonnes choses, évidemment. Bon, visiblement, mon gâteau, ça lui a pas fait un effet.
Non. En tout cas, 0 euro, allez-y. Ça. Il était pas si mauvais, le gâteau. En plus, il est dur, Pierre-Yves. On a aussi des messages sur la mobilisation du 17 octobre. Évidemment, l'appel à manifester suite notamment à la hausse des prix des carburants, mais le pouvoir d'achat en général. Ils ont laissé beaucoup trop de délais avant de manifester, même si je pense que ça ne sert à rien, nous écrit Ali sur WhatsApp 0612 424 424. Et puis on a Thierry également: descendre dans la rue, je n'y crois plus, fin du règne mai 2027, nous dit Thierry Delorière, qui attend donc surtout les élections de mai prochain pour éventuellement voir un changement de cap. Visiblement, il ne croit plus en tout cas à la politique du gouvernement actuel.
Ah bah, je vais te lire le niveau de popularité d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu, au plus bas selon un sondage Ipsos BVA pour la Tribune dimanche publié donc ce week-end. Donc selon ce sondage réalisé du 9 au 10 septembre, le chef de l'État a atteint son pire niveau de popularité depuis son arrivée au pouvoir, avec seulement 16% d'opinions favorables. Vous pouvez réagir, évidemment, on vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp d'RMC. Il est 7h10, à suivre Anthony Morel, qui va nous aider à lutter contre le gaspillage alimentaire aujourd'hui.
Oui, dans les cantines, qu'elles soient scolaires ou d'entreprise, vous allez voir que l'intelligence artificielle permet d'optimiser et de limiter les invendus et ce qu'on laisse surtout dans nos assiettes.
On te retrouve dans quelques minutes, on va aussi aller du côté d'Annecy où un boulanger propose sa baguette tradition à 1 euro pour redonner du pouvoir d'achat à ses clients. Et puis on va passer un petit coup de fil à un fan de Céline qui a assisté hier au tout premier concert de la série à la Plénitude Arena. On va tout débriefer évidemment avec lui. À tout de suite.
RMC 7h-9h 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, il est 7h11. Dans un instant, de quelques minutes, on sera avec Grégory qui était au concert de Céline Dion hier soir. Il va tout nous raconter, mais d'abord
RMC,
l'histoire des régions.
L'histoire des régions, cette semaine, c'est notre correspondant en Auvergne-Rhône-Alpes qui nous la raconte. Bonjour Vincent Chevalier.
Salut Anaïs, bonjour tout le monde.
Sur les bords d'un des plus beaux lacs de France, un boulanger a décidé de faire un geste pour ses clients, pour leur redonner un petit peu de pouvoir d'achat.
Eh oui, une boulangerie située à quelques pas du lac d'Annecy, à quelques pas aussi du centre-ville. Et c'est justement parce que son commerce n'est pas au cœur de la ville que Florian Puget et sa compagne ont décidé de créer un produit d'appel. Ce produit, c'est évidemment la baguette. La baguette traditionnelle, oui, mais à 1 euro seulement, une première dans la ville. 1 euro la baguette. Le boulanger assume d'ailleurs son coup de com' et il se donne un an pour voir ce que ça donne avec l'idée, évidemment, de faire venir plus de monde dans sa boutique. Et il explique sa stratégie au Dauphiné Libéré. Au lieu de venir peut-être deux fois par semaine, on espère que les Annéciens vont venir trois ou quatre fois et emporter avec eux d'autres produits. Ça reste tout de même un businessman. Alors, 1 euro, la baguette traditionnelle, comment c'est possible? Pas beaucoup de marge de manœuvre, malheureusement. Le pain, c'est quatre ingrédients, Anaïs, qui sont...
Ah oui,
le
d'accord.
Blé, la farine.
Ouais, la farine, ouais.
La farine.
Il y a un peu de sel.
Le sel.
L'eau. La levure.
Et la levure. L'eau, farine, levure et sel.
C'est bon.
Et
ah
c'est
bah
surtout.
Voilà.
Et c'est surtout.
On peut s'y mettre, Martin.
Faut vous réveiller, les amis. C'est surtout la farine sur laquelle Florian Puget a tenté de grappiller quelques euros. En fait, il a négocié ses prix avec le moulin, mais ça ne suffisait toujours pas. Alors, il a forcément rogné sur sa marge, 20 centimes en moins par produit, une baisse qu'il espère compenser par les volumes vendus. Et pour l'instant, ça a l'air de pas mal marcher. Ils sont passés de 90 à 200 baguettes écoulées par jour. C'est très bien. Problème, ça suffit pas. Pour que son opération puisse continuer, il devra passer à au moins 300 à 400 baguettes par jour. Et selon lui, en tout cas... Tout le monde doit encore pouvoir entrer dans une boulangerie. On essaye de maintenir un produit de qualité accessible, surtout qu'il est juste en face d'un lycée et donc accessible pour les étudiants. Et puis aussi, il y a quand même pas mal de retraités à Annecy, parfois avec des faibles revenus. Et pour eux aussi, c'est normal qu'ils aient accès à un produit de qualité et qu'ils puissent encore venir plusieurs fois par semaine à la boulangerie.
Je trouve ça intéressant. Il faut voir si ça tient dans la durée.
Oui, il faut voir parce qu'on entendait hier d'ailleurs sur RMC un boulanger qui disait devoir augmenter ses prix parce qu'il y a des charges qui augmentent, le gaz qui augmente, etc. Ça pèse tout ça. C'est une belle initiative.
C'est une belle initiative. C'est presque surprenant parce que finalement, il y a la Fédération des artisans boulangers-pâtissiers des pays de Savoie qui sont presque pas forcément ravis de l'opération, assez bizarrement d'ailleurs, parce que selon le président, il faut valoriser plutôt le savoir-faire de ces artisans-là. Et en fait, mettre une baguette à 1 euro, c'est presque baisser son niveau à celui peut-être d'un supermarché, etc.
Je suis pas d'accord, c'est prendre en compte la réalité de ce que vivent les Français en ce moment. C'est vrai que c'est une galère. Et si c'est pour qu'au final, les gens ne mangent plus de pain, parce que je pense que les gens se détournent de plus en plus de pain. J'invite d'ailleurs nos boulangers à témoigner. Est-ce que c'est pas ce qui est directement sacrifié quand les finances vont mal? Je passe en effet moins souvent à la boulangerie chercher la petite baguette de pain, ou je prends la baguette normale, pas la tradition. Vous nous dites au 32-16.
Bonne tradition à 1 euro, moi je prends.
Ouais, c'est vrai. Vous nous dites, je vous attends, ami boulanger, au 32-16 ce matin. Merci beaucoup Vincent, à très vite. Il est 7h15, nous sommes le dimanche 13 septembre 2026, lendemain de concert de Céline. On va débriefer avec Grégory, qui habite au Cap d'Agde, je crois, et qui a fait le déplacement à Paris pour la voir hier soir. C'est ça, Grégory, bonjour.
Bonjour, oui, c'est bien ça, j'avais bien Cap d'Agde, ouais.
Alors, c'était comment? Tout simplement, moi je veux savoir, vous qui avez eu la chance d'y être.
Ouais, c'était irréel. En fait, on s'attendait tellement à ce qu'elle ne revienne plus jamais que là, on vient réveiller. En fait, c'était au-delà de nos espérances et elle nous a surpris et elle est là. La reine est de retour.
Alors, la presse dit ce matin, sa voix était intacte. Vous confirmez?
Sa voix était intacte et sa voix était même plus qu'intacte et même mieux. J'ai l'impression mieux qu'avant.
C'est vrai?
J'ai l'impression que la maladie a transformé sa voix de façon positive. Et non, elle a sorti des notes qu'on n'avait jamais entendues auparavant. Et désolé, je suis dans le métro, je suis vraiment ça, désolé. Mais non, elle a sorti des notes qu'elle n'avait jamais sorties avant. Et oui, quand je dis la reine est de retour, c'est, c'est plus que sincère. La reine est là, quoi. Elle est là et elle est bien là et elle l'a montré. Et elle nous a dit elle-même, elle nous a dit je vais bien et elle va bien. Elle va très bien.
Ah oui, elle a dialogué avec son public. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a pleuré dès le début. Elle était très, très émue. Hein.
Elle a pleuré dès le départ parce qu'elle a vu que nous, on était là et qu'on l'attendait et qu'on était prêts. On était prêts à la revoir et oui, elle a pleuré, elle était très émue et ça s'est ressenti dans ses premières chansons. Il y avait de l'émotion, il y avait de la peur aussi. Hein. Ça fait quand même 6 ans qu'elle a pas chanté, donc il y avait un peu de peur aussi de son côté. Mais non, elle a été au rendez-vous et plus qu'au rendez-vous.
Et y a un moment que vous avez préféré ou
Alors,
ou c'est compliqué
je
à dire.
Je veux pas spoiler parce qu'il y a quand même des auditeurs. Je peux juste vous dire qu'il neige à l'aréna. Voilà.
Il neige à l'aréna.
Il neige à l'aréna.
Ah ok, d'accord.
Et voilà.
Et alors, il y avait pas de personnalité pour l'accompagner sur scène.
Ah si, j'ai essayé à prendre en photo Oprah Winfrey, du coup, qui était pas très mal loin.
Oui, mais dans les pas avec elle.
Non, sur scène, malheureusement, on a eu un moment où on s'est dit, j'aurais jamais arrivé, mais j'aurais jamais arrivé. Alors, elle a été seule sur scène avec ses choristes et une chorale de gospel qui était incroyable, mais pas d'artiste reconnu. Malheureusement.
Mais en même temps, vous veniez voir Céline. La liaison se dégrade parce que je pense que vous êtes toujours dans le métro. J'ai l'impression que vous n'avez pas dormi, Grégory.
Pardonnez-moi. Non, j'ai pas dormi encore. On a fait avec le groupe de fan club officiel, les Redheads, on a fait un after show jusqu'à 5h du matin.
Eh ben.
Et là, je m'en vais à Cécile pour mon TGV pour rentrer chez moi.
Ah oui, d'accord, ok.
Ça va ronfler dans le TGV.
C'est un maradion, c'est ce qu'on appelle le maradion. Voilà, on est là pour Céline et on fait le maradion. On ne dort pas, on ne se repose pas. Et on est là pour elle à 100% et elle le mérite 100%, vraiment, elle le mérite amplement.
Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous ce matin, de tout nous avoir raconté. C'est un plaisir de vous avoir. Reposez-vous bien et puis allez narguer maintenant tous vos amis qui n'ont pas eu de place comme vous à présent. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bon dimanche. Il est 7h19 à suivre dans un instant. Évidemment, si vous avez, comme Grégory, la chance d'avoir vu Céline Dion hier soir, venez nous on vous attend. On va parler aussi logement ce matin. On va parler logement à 7h40. Difficile de faire son nid en ce moment, de trouver une maison ou un appart à la location ou à l'achat. Venez nous dire où en est votre projet à vous. Est-ce que vous avez dû renoncer à déménager? On vous attend avec Martin au 3216 et on sera avec Brice Cardi, président du réseau L'Adresse, dans moins d'une demi-heure sur RMC. Pour l'heure, Anthony Morel et ses solutions intelligentes pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est dans une minute. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. 7-9. Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Bon réveil à l'écoute d'RMC avant de retrouver Anthony Morel. Un point sur les titres à retenir ce matin, Martin.
Aucun élément ne permet d'évoquer un acte de malveillance. La précision du procureur de Rouen qui dit étudier toutes les pistes après le déraillement d'un TER vendredi en Normandie. 44 personnes ont été blessées. La boîte noire du train a été saisie. Les prix à la pompe atteignent des sommets en France. Dans certaines stations, le litre de gasoil frôle les 3 euros et ça pourrait encore grimper. Les Houthis rebelles pro-iraniens affirment avoir pris le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb au sud du Yémen, un détroit stratégique pour le transport maritime. Équipe mondiale. Et puis, une grande première pour le basket féminin. Les Bleus qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde. Elles ont battu l'Allemagne hier en demi. Elles affrontent l'Ogre, les États-Unis ce soir à 20h à Berlin. Et ce sera évidemment à suivre en intégralité sur RMC.
Il est 7h22, l'heure de retrouver Anthony Morel pour imaginer demain.
RMC.
C'est déjà demain.
Bonjour Anthony.
Bonjour Anaïs, bonjour Martin.
Aujourd'hui, on va parler d'innovation pour lutter contre le gaspillage alimentaire, que ce soit dans les supermarchés ou dans les cantines scolaires ou cantines d'entreprises. Pour ça, l'intelligence artificielle va aller fouiller dans nos poubelles.
Oui, on l'a tous remarqué. Oui, alors vous inquiétez pas, hein, ça se fait très très bien et c'est pas sale, ça n'est pas sale. Si vous mangez à la cantine à midi, vous l'avez tous remarqué, les quantités phénoménales de nourriture qui restent sur les plateaux, qui finissent à la poubelle, soit parce qu'on a les yeux plus gros que le ventre.
Ça, c'est un peu de la responsabilité de chacun.
Oui, exactement, c'est la responsabilité individuelle. Mais en fait, on peut faire beaucoup mieux que ça, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Il y a par exemple une technologie qui a été conçue par une start-up française qui s'appelle Kikleo. C'est ce qu'on appelle le scan plateau. En gros, ce sont des caméras donc qu'on va placer dans le self, au niveau, enfin là où on débarrasse les plateaux, et qui sont couplées à un algorithme qui va analyser précisément tout ce qui se trouve dans les assiettes, mais au gramme près. Donc là, on voit que Anaïs, elle a fini son steak, mais il reste 35 grammes de haricots verts et 100 grammes de purée. Ah, c'est pas jojo.
Et là, il y a une alerte. ouverte dans la cantine. Anaïs n'a pas terminé son steak.
L'IA te balance. Non, c'est pas ça. Tu vas me dire, mais à quoi ça sert de savoir ça? En fait, l'intérêt, c'est que si tu multiplies ça par les centaines de plateaux d'une cantine, bah, ça donne des informations extrêmement précieuses sur le gaspillage moyen par plateau, la quantité totale de tel ou tel aliment qui termine à la poubelle. Et à partir de ça, et ben, en fait, l'intelligence artificielle va faire des recommandations. Ça peut être pour le cuisinier de travailler plutôt telle recette en ajustant les quantités de certains aliments qui sont peut-être moins populaires. Ça peut être aussi en fonction de la météo. Alors, le truc basique, plus de salade l'été, si tu vas me dire, il n'y a pas besoin de l'IA pour ça. Mais ça peut être aussi des événements. On se rend compte que peut-être pendant les périodes d'examen, les étudiants mangent un peu moins lourd pour être en forme. L'IA, en fait, va détecter des schémas que l'œil nu et que l'analyse de la donnée par l'humain n'est pas capable de détecter. Et ça, ça va permettre, eh bien, d'éviter le gaspillage. 50% de gaspillage en moins dans certaines cantines avec cette solution qui a sauvé déjà 400 000 repas de la poubelle en l'espace de 2 ans. C'est pas mal.
C'est intéressant. Ça, c'est à la cantine, mais la logique est la même dans les supermarchés, en fait.
Oui, bah dans la grande distrib, on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle, alors c'est de l'analyse prédictive. On va tenter de prévoir la demande de la manière la plus précise possible pour éviter les invendus. Alors, on a des grandes enseignes qui se sont alliées avec des startups d'IA, par exemple, que ce soit pour la boulangerie ou pour les fruits et légumes. On va utiliser des algorithmes qui vont anticiper la demande produit par produit, magasin par magasin, jour par jour, savoir exactement combien de baguettes, de yaourts, de barquettes de fraises seront vendues. Alors là encore, l'IA va coupler des données historiques de fréquentation du magasin et prendre en compte des éléments comme la météo, les événements locaux, s'il y a un match de foot, un jour férié, une rentrée scolaire, peut-être qu'on va vendre plus de viennoiseries pour le goûter à partir de la rentrée scolaire. Il y a plein de choses comme ça, voire des tendances sociales. Et quand on parle de gaspillage alimentaire, l'enjeu est colossal, hein, puisque l'équivalent d'un milliard de repas finis à la poubelle chaque jour dans le monde. Hein. Donc si l'IA permet d'en sauver ne serait-ce qu'une petite partie, elle aura déjà une vraie utilité.
Merci beaucoup Anthony. Il est 7h27, vous écoutez RMC. À suivre dans Anaïs Maintin, plus de 9 Français sur 10 trouvent que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 10 ans pour trouver un logement. Venez nous raconter le parcours du combattant pour dénicher votre maison ou votre appartement. Venez poser aussi vos questions à notre invité Brice Cardi, président du réseau L'Adresse, est avec nous dans quelques minutes. Ce sera juste après le journal de 7h30 avec à la une ce matin l'équipe de France féminine de basket en finale de la Coupe du Monde aujourd'hui face aux États-Unis. C'est la première finale de Coupe du Monde de son histoire. Ce sera évidemment à suivre en intégralité sur RMC aujourd'hui. On y revient dans un instant dans le journal. La météo avec Peggy Broche. Encore du soleil aujourd'hui?
Oui, sur la majeure partie du pays, sauf si vous êtes sur l'extrême nord, puisqu'on a une petite perturbation, alors, qui donne juste quelques pluies éparses et plutôt faibles. Entre la Manche et la frontière belge ce matin, on a quelques bandes de brouillard également sur la Bretagne, du côté de la Vendée ou encore vers les Landes. Ailleurs, c'est du soleil. Et cet après-midi, bah, cette perturbation, on va la retrouver entre la pointe du Cotentin et le Grand Est avec un risque d'orage entre les Ardennes et l'Alsace. On a quelques ondées possibles également sur l'île de France, mais partout ailleurs. C'est du grand bleu avec des températures minimales qui sont souvent comprises entre 12 et 18 degrés, même si on est sous les 10 degrés par endroit sur les régions centrales, par exemple, ou sur le nord-est. Ça reste très localisé. Et les températures maximales, elles restent élevées. Pour la saison, on est encore 3 à 5 degrés au-dessus des normales. 21 à Cherbourg et à Lille, 22 à Brest, 23 à Reims, 24 degrés à Metz, 25 à Caen et à Langres, 26 à Aurillac et à Nice, 27 à Paris et Grenoble, 28 degrés du côté de Nantes, Orléans et 29 à Bourges et Montélimar ainsi qu'à Tarbes, 30 à Marseille et Montpellier, 31 à Nîmes, Perpignan et Montauban.
Et rapidement, comment commence la semaine?
Et ben avec des températures encore élevées, une moyenne de 27 degrés au nord demain après-midi, 31 au sud. On a juste un peu plus de nuages au nord de la Seine et sur les frontières de l'Est. Quelques faibles pluies possibles sur l'extrême nord. Partout ailleurs, ce sera du soleil. Et on va garder cette chaleur jusqu'à mardi. Et après, on va revenir à des températures de saison.
Merci Peggy.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Vous écoutez RMC, il est 7h30.
RMC 7-9, Anaïs
Le
Matin.
Le journal est présenté par Cassandre Brault. Bonjour Cassandre.
Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Les Bleus du basket en finale de la Coupe du Monde. Un hommage à Éric Roy sur la pelouse de Francis Leblé. Céline Dion a retrouvé son public hier soir.
Et c'est fait, le buzzer final. Les Bleus sont en finale de la Coupe du Monde. Victoire 86-64. La joie de tout le monde. Elles vont ramener une
c'est
médaille à la maison.
C'est une performance historique pour l'équipe de France féminine de basket.
Après avoir battu l'Allemagne en demi, les Bleus disputent leur première finale de la Coupe du Monde face aux États-Unis ce soir à 20h à Berlin. Un match pour l'histoire. Les Françaises n'ont jamais été aussi proches de remporter un premier titre, Félix Gabory.
Hier soir, il a fallu quelques minutes à Carla Leit, la meneuse des Bleus, pour redescendre de son nuage.
On n'en revient pas, honnêtement. Enfin, c'est une dinguerie. On est sûr de repartir avec une médaille. C'est ce qu'on voulait. Et maintenant, plus qu'à aller chercher l'or.
Malgré l'euphorie d'une première finale en Coupe du Monde, le titre est dans toutes les têtes. Pour les Françaises, pas question de s'arrêter là. Même si les intouchables américaines, invaincues depuis 2006 en compétition internationale, se dressent désormais sur la route des coéquipières de Dominique Malonga.
On va vraiment aborder ce match-là comme un match de basket, finalement. Et je pense que c'est tout ce qu'on a à faire. Des adversaires qu'on connaît. On se sent tellement bien et tellement en confiance en ce moment qu'on pense vraiment qu'on peut battre n'importe qui si on joue notre basket.
France-États-Unis, ça rappelle aussi le souvenir de la finale des JO 2024. À Paris, les Bleus avaient perdu d'un petit point. Pourtant, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane ne veut pas parler de sentiment de revanche.
Je pense qu'il ne faut pas l'aborder comme ça. Il faut l'aborder juste, essayer de trouver les moyens, en tout cas les solutions sur le terrain. J'ai aucun doute qu'elles sont motivées, qu'elles vont rester soudées, déterminées, en tout cas par rapport à cet objectif. Maintenant, nous, le staff, tout le monde, on va essayer de travailler pour trouver quelques tricks, comme on dit.
À la clé, il y a tout simplement le plus gros exploit de l'histoire du basket français.
RMC adapte ses programmes ce soir pour vous permettre de vivre l'intégralité de la finale en direct. En pleine crise des carburants, le ministre de l'économie annonce vouloir retrouver des marges de manœuvre budgétaires. Nous ne pouvons pas accompagner tout le monde, martèle Roland Lescure dans une interview publiée au Parisien hier. Il a rappelé son opposition à une baisse de la fiscalité sur les carburants. Les carburants dont le prix pourrait continuer de s'envoler. Un nouveau détroit stratégique pour le transport maritime international est menacé de fermeture. Le détroit de Bab el-Mandeb, les outils rebelles pro-iraniens affirment avoir pris son contrôle. Une prise stratégique qui bloque un peu plus l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole, et qui pourrait donc gonfler un peu plus les prix à la pompe. Après un été discret, Marine Le Pen fait sa rentrée politique. Elle se rend à Hénin-Beaumont, aujourd'hui son fief électoral. La candidate à l'élection présidentielle va prononcer un discours en début d'après-midi dans lequel elle devrait faire une grande annonce sur la vie quotidienne des Français, selon ses proches.
Il est 7h32, rétro-pédalage dans la course au développement de l'IA.
Et il vient de Dario Amodei, lui-même le patron d'Anthropic, la maison mère de l'IA Claude. Il a publié un essai hier dans lequel il appelle tous les leaders de l'IA à ralentir le développement de l'intelligence artificielle. Une prise de position inédite, mais très vite suivie par les géants du secteur. Matteo Rollet.
La peur principale, la proximité d'un point de non-retour. Autrement dit, le jour où une IA va réussir à en développer une autre, sans l'aide d'un humain. Dario Amodei l'affirme, il faut temporiser pour que la prévention des risques soit en mesure de suivre le rythme. Pas anodin, car plusieurs couacs ont été rapportés à Anthropic et OpenAI. Certains de leurs modèles se sont par exemple rendus sur Internet à l'insu de leurs superviseurs. Amodei redoute que d'ici 6 à 12 mois, ces IA puissent, je cite, « prendre le contrôle de l'intégralité d'Internet ». Alors il propose d'intégrer, entre autres, des observateurs indépendants pour vérifier que sa start-up tienne ses engagements. Sam Altman promet d'en faire de même chez OpenAI.
Moscou juge impossible une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky au G20 de Miami en décembre prochain. Précédemment, le président ukrainien se disait prêt à rencontrer son homologue russe, mais le porte-parole du Kremlin a répété hier qu'une telle rencontre pourrait seulement avoir lieu dans la capitale russe.
Il est 7h34, le stade brestois rend hommage à Éric Roy, décédé peu avant l'été.
Le club va profiter de la réception du Paris Saint-Germain ce soir pour rendre un hommage à son entraîneur, emporté mi-juin par un cancer du pancréas à l'âge de 58 ans. L'émotion s'annonce très forte ce soir au stade Francis Leblé, Xavier Grimaud.
Oui, les larmes vont couler et les applaudissements vont redoubler, c'est certain, ce soir, au moment de se souvenir de King Eric, l'homme qui a emmené Brest jusqu'à la Ligue des Champions, au son du chant désormais classique entonné dans les tribunes par les supporters. Des supporters qui, comme Arnaud, ont toujours du mal à réaliser.
Pendant des années, il sera encore là, en fait. Il sera à vie dans ce stade, en fait. On est là, limite, plus pour Éric Roy, là, pour sa mémoire, que pour Brest. On l'oubliera jamais, ce bonhomme.
Pour les joueurs, le choc est aussi toujours dur à digérer. L'attaquant, Ludovic Ajor.
C'est particulier parce qu'on avait l'habitude d'être avec lui, de le voir toujours sur le banc avec sa casquette.
Mais le milieu de terrain, Hugo Magnetti, veut entretenir l'héritage.
Quand on joue aussi pour lui. Ça se ressent aussi dans l'énergie qu'on met. On a toujours un petit mot avant le match pour lui. Ça va être un bel hommage pour lui. Avec
avec sa femme, avec ses enfants, on sera heureux de les accueillir. On aura cœur vraiment, vraiment de faire un très, très grand match pour lui.
Pour qu'Éric Roy soit fier de là-haut et que son chant ne s'arrête jamais.
Les autres rencontres de la Ligue 1 aujourd'hui, Lille affronte 3 à 15h. Les Lensois se déplacent au Mans à 17h15. En rugby, la journée se terminera avec le choc du top 14 ce soir à 21h05. Le Stade toulousain, champion de France en titre, accueille l'Union Bordeaux-Bègle, le champion d'Europe. Toulouse battue lors de la première journée à La Rochelle et qui doit lutter contre un début de saison compliqué sur et en dehors du terrain. Wilfried Templier.
Oui, une amende record de 2,7 millions d'euros pour dépassement de masse salariale, des départs annoncés de cadres comme Ramos ou Cross à la fin de saison, des blessés qui s'enchaînent et une première défaite la semaine dernière.
Forcément, le Stade Toulousain est au cœur de sujets qui sont pas forcément positifs pour nous.
Jean Bouilloux, entraîneur des avants du Stade Toulousain.
J'ai pas senti les joueurs plus affectés que ça. Les semaines d'entraînement se passent vraiment bien avec il y a de l'appétit. Nous, c'est plutôt ces marqueurs-là qui déterminent vraiment ce qu'est un groupe et à ce sujet-là, j'ai pas senti de différence, quoi.
Toulouse lutte contre les vents contraires. Le club demande même aux journalistes de ne plus interroger joueurs et entraîneurs sur l'extra-sportif. Pourtant, comme le dit le troisième ligne Alexandre Roumat, on ne veut pas y voir la cause de la première défaite à La Rochelle.
Il y a de plus en plus d'infos qui sortent dans la presse. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il n'y a aucune corrélation entre le match et le contexte actuel autour du club.
Ce choc face à l'UBB tombe finalement bien. L'ailier Ange Capozzo prévient.
Ça va donner le ton de notre début de saison. Évidemment que ça va conditionner notre automne. C'est un match qui va donner le départ de cette période numéro 1, on va dire.
Ne pas s'ajouter de problème, la mission du Stade Toulousain ce soir.
Le choc du top 14 est à suivre en direct sur RMC.
Et puis après 6 ans d'absence, Céline Dion a retrouvé ses fans.
Ils étaient 30 000 chanceux à avoir pu assister au premier concert de la star, 2h30 de show, qui ont fait le bonheur de Lynn, cofondatrice d'un fan club, qui était présente hier soir à Paris.
C'était incroyable, c'était extraordinaire. On nous avait dit que ça allait être un événement grandiose, qu'il y avait toute une scénographie, que Céline avait toutes ses capacités, que ça allait être fou. Et en fait, on nous a pas menti. Et c'était même au-delà, je dirais même, de nos attentes, à minces égards. L'aménagement était fou, les décors étaient fous, les écrans étaient d'une grande qualité. C'était, ça projetait quelque chose de sensationnel, surtout à la Plénitude Arena.
Vous nous dites, hein, si vous avez eu la chance d'aller voir Céline ou si vous avez des billets pour les prochaines dates, Martin, toujours pas ?
Non, toujours pas. Il en reste 15 hein, des dates avant l'automne et il y en aura une dizaine au printemps.
On vous attend évidemment au 32-16 ce matin. Merci beaucoup Cassandre et à tout à l'heure. À suivre sur RMC. On va parler logement et de ce qui vous bloque peut-être dans votre recherche, pas assez de biens à la loc pour le nombre de demandes, des taux d'intérêt trop importants pour pouvoir acheter. Mais pourquoi trouver son nid est devenu si compliqué? Je vous attends en 32-16 et Brice Cardi, président du réseau L'Adresse, nous répond dans une minute. D'ailleurs, si vous avez des questions, venez directement l'interpeller. À tout de suite.
RMC, 7h-9h. 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna. Vous écoutez RMC, il est 7h40.
RMC.
L'invité du jour.
Mon invité ce matin, c'est Brice Cardi, président du réseau immobilier L'Adresse, pour parler logement et des difficultés que rencontrent les Français. Bonjour Brice Cardi.
Bonjour.
Selon une étude réalisée cette semaine par Léocare, Néo Assurance, 91% des Français estiment qu'il est plus difficile de se loger aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Plus de 9 Français sur 10. J'imagine que vous n'êtes pas surpris.
Non, c'est vrai, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les taux étaient plus bas. Si on remonte il y a 10 ans, je pense qu'on était aux alentours de 2, peut-être même en dessous de 2%. Peut-être plus compliqué, néanmoins, les chiffres démontrent. Vous savez, il y a toujours le ressenti et les chiffres réels. Mmh. Et il y a 10 ans, on était en dessous de... On était à 800 000 appels, 800 000 transactions. Alors aujourd'hui, on a 950 000, donc aujourd'hui, on a plus de rotation. Alors, il y a,
un
phénomène de démographie.
C'était pas si beau. Il y a un vrai ressenti...
En fait, il y a le ressenti et il y a les chiffres.
Ouais.
Si on prend le ressenti, oui, les conditions étaient plus simples. Si on prend les chiffres, malheureusement, c'est l'inverse. Les chiffres étaient moins importants. On a vraiment atteint des pics. On a commencé à monter justement à partir de 2016. Après, il y a eu le phénomène post-Covid qui a été absolument hallucinant. Et on a dépassé des records en dépassant les 1 200 000 transactions. Mais clairement, on est aujourd'hui à peu près à 900-950 000 transactions. Donc on est à peu près au même niveau que sur 2 années glissantes. Et en 2016, on était à peine à 800 000.
On parlera de l'achat après. D'abord sur la location. Pourquoi c'est si compliqué?
D'abord, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'offre. Alors ça c'est pareil, ça c'est un petit peu décoincé, un tout petit peu décoincé parce que depuis 2 ans, on a vraiment... Enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce qu'il faut retenir, c'est que 2024... a vraiment été une année cauchemar, tout simplement parce que les taux étaient à 4%, et qu'en gros, clairement, il faut comprendre que ce sont les banques qui font l'appui et le beau temps. Vous avez sur un marché normal, comme celui qu'on connaît aujourd'hui, vous avez 8 Français qui passent par la case crédit. Donc aujourd'hui, enfin depuis 2025, on a les primo-accédants, généralement les plus jeunes, les primo-actifs qui sont revenus sur le marché. Ça, c'est une condition indispensable pour qu'un marché soit bon ou mauvais. Et beaucoup d'entre eux occupaient des biens en location. Donc ils ont libéré de l'offre locative, ce qui fait que ça s'est un peu décoincé. Néanmoins, vous avez un indice de tension aujourd'hui où vous avez en moyenne un bien pour deux demandes. Certaines communes où vous êtes rapidement à 1 sur 4, généralement dans les grandes agglomérations, là où le marché se trouve, le marché de l'emploi se trouve. Mmh. Et puis vous avez à Paris, vous avez un bien pour 10 demandes et certains types de biens.
À Paris, c'est l'enfer. Moi, je vais vous raconter. Récemment, j'ai cherché un appartement à la location. Je me retrouve à 40 ans, donc désormais, on est 30 à visiter un appartement.
Ben c'est ce que je vous disais. C'est ce que je disais. À Paris, on peut avoir.
Donc il n'y a pas assez de biens et on n'encourage pas assez les propriétaires à louer.
Alors, c'est pas qu'on n'encourage pas, c'est qu'on les a beaucoup découragés. Mmh. C'est pas tout à fait la même chose.
Alors, justement, je voudrais qu'on prenne Cyril sur cette question de l'encadrement des loyers. Marine Le Pen, elle voudrait en finir avec ça. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Je sais que vous vouliez m'en parler, justement, de Marine Le Pen qui veut en finir avec l'encadrement des loyers dans les grandes villes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Cyril ?
Ah, mais c'est une belle connerie. Les revenus modestes, là, je sais pas comment on va faire. Moi, déjà, si les loyers, ils explosent. Je vois pas comment on va faire. Il y aura peut-être encore plus d'Airbnb à Paris, ça sera encore mieux. Mais pour les multipropriétaires, ça va être génial, ça, par contre, ça, il faut dire la vérité. Mais pour ceux qui sont comme moi dans la galère tous les mois pour réussir à bien payer le loyer, si demain le loyer maintenant c'est libre, on peut mettre n'importe quel prix, ben il y en a un paquet qui vont pleurer, ouais.
Je comprends votre réaction, Cyril. On va voir ce qu'en pense Brice Cardy.
Alors je comprends et je soutiens complètement la difficulté, le point de vue, le désarroi de Cyril. Néanmoins, pareil, les chiffres apportent la preuve du contraire. L'encadrement des loyers, il y a eu deux vides juridiques, alors j'ai plus les années très précisément, mais les deux fois où il y a eu suspension, notamment Paris, puisque c'est Paris qui a été un peu pilote sur le sujet, eh bien, comme de bien entendu, alors c'est pas que l'explication, mais ça apporte bien la preuve que un marché immobilier est supporté et réagit en fonction du marché et un contexte économique. Les deux fois où il a été suspendu, comme par hasard, les deux fois, le marché était à la baisse. Ce que je veux dire, c'est que quand tout à l'heure Cyril disait les propriétaires vont faire n'importe quoi, il n'y a pas de n'importe quoi, vous savez, les Français, ils sont pas du tout idiots. Demain, vous mettez un appartement qui correspond vraiment pas du tout au marché. Alors, à part en effet,
Marchands de sommeil. Je suis pas d'accord avec vous parce qu'à Paris, on voit quand même des biens.
Oui, c'est marchands de sommeil, ça vous êtes sur les toutes petites surfaces, oui. Etc. Mais clairement, on s'aperçoit que l'encadrement des loyers n'a pas forcément fait du bien parce que pour qu'il y ait un problème, enfin, le point de départ, c'est quoi ? C'est qu'il y ait des biens à proposer en location. Si vous voulez avoir des biens à proposer en location sur des petites surfaces notamment, faut-il encore qu'il y ait des propriétaires privés, futurs bailleurs, qui aient envie de s'engager parce que on leur donne pas l'appartement, il faut qu'ils prennent un crédit de 20 ans. Généralement, il y a des travaux, il y a des charges de copropriété à payer, il y a une fiscalité qui n'a cessé de changer, qui est pas stable du tout. Il y a des gens à qui on a quand même proposé un statut meublé et finalement sans rien en dire, 10 ans après, on leur dit ce qu'on vous a promis il y a 10 ans, c'est suspendu. Avec un côté rétroactif. Donc aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a de moins en moins de biens à proposer. C'est ça le sujet.
Et alors, à l'achat aussi, c'est compliqué. Les prix restent élevés, les taux de crédit grimpent. D'ailleurs, cette semaine, la BCE a annoncé l'augmentation de ses taux directeurs pour les pays de la zone euro. Ça veut dire donc que ça va encore augmenter.
Donc, qu'est-ce qui va augmenter ? Non, c'est l'inverse.
Les
taux.
Taux
vont augmenter.
Oui,
je pense que vous parlez des prix des logements.
Non,
oui, les taux vont augmenter. Alors, pareil. Je vous disais que 8 ventes sur 10 passaient par la case crédit. Donc, vous avez compris qu'en gros, si vous n'êtes pas dans les radars, si vous n'êtes pas dans les clous, voilà. Une augmentation de 0,10, comme l'a annoncé la BCE, et certaines banques, ça y est, l'ont déjà appliqué. Ouais. Si vous prenez un emprunt moyen constaté aujourd'hui, c'est 200 000 euros sur 20 ans, c'est à peine 10 euros d'effort par mois. Bon, jusqu'ici, tout va bien. La difficulté, c'est pas ça. La difficulté, c'est, et malheureusement, c'est ce qu'on craint, c'est une augmentation progressive qui pourrait, selon ce qui est annoncé, atteindre les 4% d'ici la fin de l'année. Et là, c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que si vous êtes à 4%, la difficulté, c'est vos revenus. C'est-à-dire la capacité à pouvoir apporter la preuve aux banques où vous êtes solvable.
Ouais.
Et là, ça veut dire que vous devez passer de 3500 euros de revenus par mois à 3800 euros de revenus par mois. Donc en fait, c'est ce qui explique qu'on a fait le yo-yo en 2026, et malheureusement, on va continuer à le faire, avec des acquéreurs qui arrivent sur le marché, et malheureusement, beaucoup plus nombreux, qui disparaissent du marché. Donc, pour faire clair, vous avez un projet à court ou à moyen terme, avec un projet de vie, ce qui est pris n'est plus à prendre. Parce que le vrai sujet, c'est que les Français veulent devenir propriétaire. On parlait des primo-accédants qui souvent sont locataires. Il n'y a pas de comparaison. Vous êtes en location, les loyers, c'est à fond perdu. Mmh. Vous achetez, quel que soit le taux, vous allez amortir dès le premier mois votre capital. Mmh. Et puis si réellement on reconnaît un jour une tendance avec des taux historiquement bas, toujours possibilité de renégocier. Donc aujourd'hui,
donc vous dites à ce matin nos auditeurs que c'est quand même malgré tout le moment de se lancer.
Mais bien sûr que c'est le moment parce que on a tendance à oublier. Mais il y a 4-5 ans, qu'est-ce qu'on nous reprochait? Parfois, vous parliez de location, mais la tension qu'il y avait en location, on avait la même en transaction, à l'achat. Mmh. Vous aviez parfois, vous appeliez quelqu'un, vous vouliez visiter, et puis on vous annule la visite en disant désolé, il était vendu. Nous, parfois, on pouvait vendre 10 fois un bien dans la journée. Vous avez compris, on aurait pu avoir 10 offres au prix. Donc aujourd'hui, vous avez plus de biens à proposer, enfin, on a plus de biens à proposer sur le marché, donc vous avez plus de choix. Vous
avez mais les plus... Français n'ont pas les moyens d'acheter.
Non, vous avez plus de temps. La difficulté, et on est là aussi pour y remédier, on est intermédiaire sur le logement, mais c'est-à-dire c'est une chaîne vertueuse dans laquelle on accompagne nos clients, notamment sur le financement. On les conseille avec des partenaires d'aller voir un courtier, et l'idée, c'est d'arriver à aligner planète. Donc, l'idée, c'est de commencer par ça. Derrière, c'est pour les propriétaires qui nous écoutent, comprendre que la tendance ne va pas être à la hausse des prix, mais malheureusement, certainement à la baisse.
Faciliter les donations familiales, comme le veut Sébastien Lecornu, vous êtes favorable à ça? Parce que ça peut aider justement les
propriétaires. Moi, je pense que ça peut en effet dégripper, libérer les choses. Et puis de toute façon, il y a un phénomène qui va nous tomber dessus, que tout le monde voit arriver, c'est tout le phénomène des boomers, où on va avoir en effet beaucoup, beaucoup de successions, beaucoup de logements qui vont arriver. Donc, ouais, je pense que faciliter la donation, c'est dégripper le système. Aujourd'hui, clairement, le système, il est grippé parce que c'est trop compliqué. Que ça soit sur la notion énergétique, les diagnostics de performance énergétique.
Mais vous n'êtes pas inquiet pour l'avenir?
Non, moi, j'ai plutôt une nature à être très, très optimiste.
Oui, ça s'entend.
Ça s'entend. Ouais. Non, je suis très optimiste. L'idée, c'est juste d'arriver à comprendre les mécanismes et d'où, voilà, vous allez me dire que je fais un peu ma vente, mais on est intermédiaire. Les gens retiennent malheureusement que les honoraires, ils oublient tout le parcours de l'accédant qui s'est transformé en parcours du combattant. Et nous, on est là pour équiper justement les combattants à avoir les bonnes armes pour pouvoir trouver un logement qui correspond à leur recherche.
Merci beaucoup, Brice Cardy, président du réseau immobilier L'Adresse, d'être venu nous voir ce matin sur le plateau d'RMC. Merci aussi à Cyril d'avoir réagi, c'était intéressant de revenir en effet sur l'encadrement des loyers, puisque Marine Le Pen veut y mettre fin. Bonne solution ou pas, vous réagissez au 32-16 évidemment, et sur le WhatsApp d'RMC, on y revient tout au long de la matinée. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très vite sur RMC. Il est 7h50. À suivre dans l'œil des réseaux, on va parler de la campagne présidentielle qui se joue aussi sur les réseaux sociaux, ce sera évidemment avec Amine Lafchin. Et puis dans le bonus, Martin, on parle de qui ce matin?
Alors, on a Céline en ce moment, c'est pas forcément simple de faire mieux. Ouais. Et une autre star internationale britannique, celle-là, vient d'annoncer qu'elle serait sur la même scène à la Défense l'été prochain.
A tout de suite.
RMC 7-9, Anaïs Matin.
Anaïs Castagna.
Vous écoutez RMC, il est 7h52, l'heure d'aller voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux.
RMC,
l'œil des réseaux.
Ça va peut-être faire réagir Bruno Jeudy, qui est déjà en plateau avec nous, très matinal en ce dimanche. Bruno Jeudy, qui interviendra tout à l'heure pour sa chronique, son édito politique, qui va réagir donc à la chronique d'Ameline Lafchin. Bonjour Ameline.
Salut Anaïs.
Ce matin, tu nous parles, oui, de politique, avec des candidats qui inondent les réseaux sociaux.
Exactement, et je vais démarrer avec un candidat qui a fait le buzz cette semaine, tu l'as sûrement vu, Gabriel Attal, une bière à la main, qui annonce sur les réseaux sociaux son opération intitulée 1000 bistrots.
Tout au long du mois de septembre, on organise l'opération 1000 bistrots. C'est 1000 rassemblements.
Bon,
dans des
alors
cafés,
j'ai quand même fait le calcul, parce que cette opération doit durer un mois, 30 jours. Donc s'il veut faire 1000 bistrots en un mois, ça fait quand même 33 bars par jour. Comment dire que pour vendre son programme, Gabriel Attal, il a plutôt intérêt à commencer par le café, parce que s'il commande une bière dans chaque bar, pas sûr qu'il soit bien écouté par les électeurs, quoique on sait jamais. Non, blague à part, ce matin, j'ai voulu aborder ce sujet parce qu'on le sait, le premier à avoir réussi à se servir des réseaux sociaux pour faire campagne, Bruno, tu sais qui c'est?
Pendant cette campagne, c'est Édouard Philippe, non?
Non, le premier, il y a 10 ans en arrière.
Ah, le premier, Jean-Luc Mélenchon.
Jordan Bardella, avoir réussi, en tout cas,
Jean-Luc Mélenchon sur TikTok était très fort.
Exactement, et Jean-Luc Mélenchon, il y est. Aujourd'hui, tout le monde y est, comme tout le monde. D'ailleurs, il a publié une vidéo cette semaine, il en a publié plein. Je reviens sur cette vidéo que j'ai trouvée sur son compte TikTok.
Nous proposons de supprimer les cotisations retraite.
Je supprimerai d'ailleurs la PPO3. Je propose d'abord de supprimer 50 milliards d'impôts de production.
Il faut supprimer les impôts de production.
Ça, c'était lors des rencontres avec les MEDEF. Et derrière ces voix, je ne sais pas si vous les avez reconnues, des voix transformées. Il y a Marine Le Pen, il y a Bruno Retailleau ou encore Édouard Philippe. C'est une manière pour Jean-Luc Mélenchon de se moquer de ses adversaires. Et ça marche, hein, parce que cette vidéo, elle a été vue plus d'1,5 million de fois. Et ce n'est pas le seul à avoir la cote sur les réseaux. J'ai regardé les comptes des trois favoris pour l'instant de cette présidentielle. Bruno, je parle sous ton contrôle. En cumulant sur TikTok et Instagram, Marine Le Pen, elle, a plus de 2 260 000 abonnés. Jean-Luc Mélenchon, lui, il cartonne. Il a 3 800 000 abonnés. C'est énorme. Pour dire, c'est autant que l'acteur Pierre Niney, par
exemple.
Parce
que son électorat est plus jeune, peut-être aussi.
Certainement.
Peut-être pour ça qu'il en a plus.
Il a une antériorité. Il a vraiment joué cette carte-là.
Il a très vite compris.
Contrairement à d'autres candidats dans cette campagne qui sont très en retard sur les réseaux sociaux.
Très en retard.
Comme qui, tu penses à qui, Bruno ?
Édouard Philippe, par exemple.
Ouais. Édouard Philippe, exactement. 245 000 abonnés seulement. C'est tout petit, hein, comparé à ses concurrents. Alors, bon, si les candidats sont populaires sur les réseaux sociaux, on verra qui sera le mieux apprivoisé ce nouveau terrain de communication. Pour l'instant, en tout cas, en tant qu'experte des réseaux sociaux, moi, je considère qu'il y a encore du boulot.
Merci beaucoup, Amine. 7h55, c'est l'heure du bonus de Martin.
Anaïs Matin.
Le bonus RMC.
Martin, le Britannique, Harry Styles passera par Paris l'été prochain.
Et c'est une autre superstar qui va donc se produire dans la capitale. La preuve, la musique que vous entendez derrière moi là, As It Was, a été écoutée, tenez-vous bien, plus de 4 milliards de fois rien que sur Spotify. On est dans le top 10 des titres les plus écoutés de l'histoire. Voilà donc le genre de mastodonte qui va débarquer l'été prochain sur la scène de la Plénitude Arena, ex Paris La Défense Arena, là où se produit Céline Dion en ce moment. Deux dates donc pour Harry Styles à Paris, les 16 et 17 juillet prochains. On a encore le temps, quoique va falloir faire vite car la billetterie pour ces deux concerts ouvre demain. Rendez-vous à 16h notamment sur le site de Live Nation, livenation.fr. Alors ce n'est pas une première pour Harry Styles à Paris, il avait quand même rempli deux fois le Stade de France il y a 4 ans. Pourtant passé par Paris, c'était pas prévu au départ de sa tournée. Cette date parisienne, c'est l'une des 25 dates rajoutées à sa tournée mondiale Together Together. Elle était censée se terminer à la fin de l'année. Harry Styles va finalement passer non seulement par Paris donc, mais aussi par Madrid, Londres, Dublin, Berlin, avec aussi quelques stars en première partie. Exactement.
Kylie Minogue.
L'Australienne Kylie Minogue qui sera donc en première partie d'Harry Styles à Los Angeles par exemple. Alors à Paris, ce sera quelqu'un d'un peu moins célèbre. Bon, ça je sais pas si vous reconnaissez, elle s'appelle Caroline Polacek, c'est elle qui assurera la première partie parisienne d'Harry Styles les 16 et 17 juillet prochains pour obtenir vos places. Je vous rappelle donc le rendez-vous demain 16h pour l'ouverture de la billetterie.
Merci beaucoup Martin. On marque une toute petite pause, on se retrouve dans un instant pour votre rendez-vous du dimanche matin. Le dimanche, c'est jeudi, l'édito politique de Bruno Jeudy, directeur délégué de la Tribune Dimanche, pour suivre, décrypter évidemment la présidentielle. On va parler, Bruno, de Marine Le Pen, qui fait sa rentrée dans son fief d'Hénin Beaumont, c'est ça. Et de ses chances à la présidentielle, elle est tout en haut, évidemment, des sondages. Hein, tu nous en as déjà parlé dans l'analyse ce matin. Mais est-ce qu'elle est imbattable?
Oui, elle est battable, mais ça va être difficile parce que les scores sont stratosphériques et même si généralement elle baisse dans les campagnes, là on voit bien que son score est très enraciné et tout concourt à faire monter le Rassemblement National actuellement.
On y revient avec toi dans quelques minutes, ce sera juste après le journal de 8h, avec à la une les prix des carburants extrêmement élevés et cette interrogation, allez-vous descendre dans la rue le mois prochain? Des appels à manifester circulent évidemment sur les réseaux sociaux, vous les avez peut-être vus, vous avez peut-être déjà noté la date du 17 octobre dans votre agenda. Je vous attends au 32-16 et on y revient dans une minute. À tout de suite sur RMC.
RMC
7-9, Anaïs Matin.